Bien, nous reprenons donc avec cette deuxième opposition présente dans l'œuvre de Ricoeur et qui consiste à partir du plus classique, c'est-à-dire l'opposition entre, d'un côté, l'association traditionnelle de la mémoire individuelle avec l'intériorité, avec la conscience, avec la connaissance de soi. Et à chacune de ces formes, on peut faire correspondre un auteur, Saint-Augustin, Locke, Husserl. Et de l'autre côté, la mémoire collective, compris comme un processus collectif qui est inscrit dans des cadres sociaux partagés par une communauté, quelle qu'en soit la dimension. Et ici, évidemment, c'est tout l'œuvre de Halbwachs qui est référée par, qui fait référence pour Ricoeur. Donc cette opposition est classique, elle est fondamentale entre philosophie ou phénoménologie d'un côté et sociologie de l'autre. Ce que montre ou veut montrer le livre de Ricoeur, c'est qu'il est possible, grâce à un concept qui est celui d'ascription, de repérer que des phénomènes mnémoniques peuvent être attribués aussi bien à l'individu qu'au groupe, à soi, à l'autre ou à la communauté, ce qui rend pensable, dit Ricoeur, les échanges entre la mémoire vive des personnes individuelles et la mémoire publique des communautés. Cette condition de possibilité, c'est de surmonter l'opposition trop radicale entre regard intérieur, regard extérieur, entre phénoménologie et sociologie. Et Ricoeur, d'ailleurs, décrit cette condition de possibilité en termes de transformation interne de chacune des approches, puisqu'il montre comment l'approche phénoménologique s'est sortie du seul individu, de la seule intériorité de la conscience, pour prendre en considération l'expérience d'autrui, et donc le monde social, ou pour le moins le lien social, et qu'inversement, dans des approches sociologiques ou socio-historiques, place a été donnée aux expériences de chacun des acteurs à l'intérieur des perceptions ou des représentations ou des stratégies partagées. On a donc là une manière de croiser les termes classiques de l'opposition en considérant que la conscience intérieure s'inscrit dans ce que Ricoeur appelle un régime du vivre ensemble, s'inscrit dans le lien social. Et inversement, que les règles, les conventions, les perceptions, les représentations partagées n'effacent pas, n'étouffent pas les singularités individuelles. Et c'est avec cette inversion d'une opposition traditionnelle, individuelle, collective, bousculée et reconfigurée dans cette individuel inscrit dans le lien social, ou cette contrainte collective qui permet la singularité, qu'on peut retourner dans la Sierra Morena et de rencontrer Sancho et Don Quichotte une seconde fois. Sancho parce qu'il serait que le parfait exemple de l'opposition entre une mémoire collective, qui est la sienne, et une mémoire individuelle dont il dit être dépourvu. Une fois qu'il a écrit la lettre à Dulcinée, Sancho va la confier sur le librillo de memoria à Sancho pour qu'il l'amène dans son village, d'abord qu'il la donne à Dulcinée, puis ensuite qu'accessoirement il donne à sa nièce l'autre lettre de façon à ce que Sancho reçoive les trois anons qui lui ont été promis. Je cite, Don Quichotte appela Sancho et lui dit qu'il voulait lui lire la lettre pour qu'il l'apprît par cœur. La tomase de memoria, si jamais il la perdait en chemin, car de sa malchance, on pouvait tout craindre. À quoi Sancho répondit, écrivez-la, monsieur, deux ou trois fois dans le librillo de memoria et donnez-le-moi, je saurais bien le garder. Car penser que je vais apprendre la lettre par cœur, c'est folie, disparate. J'ai si mauvaise mémoire que, bien souvent, j'oublie comment je m'appelle. Cependant, monsieur, dites-la-moi, je serai fort aise, car elle doit être écrite en lettres d'or, qui est une traduction d'une expression espagnole un peu plus intéressante et riche parce que c'était como de molde. Et molde, c'est le caractère typographique. C'est-à-dire que, aussi bien en anglais qu'en espagnol du début du XVIIe siècle, la référence à la typographie sert à marquer quelque chose qui est de qualité. In print dans les textes anglais et de molde, parce qu'on dit lettra de molde, c'est-à-dire la lettre typographique. Alors on voit qu'ici, Cervantes joue du contraste entre les défaillances de la mémoire individuelle, qui est oublieuse même du nom, qui est rétive à apprendre ou à emmagasiner quelque chose de nouveau, et d'autre part, l'incorporation mémorielle par Sancho de tout un patrimoine qui est celui de la communauté. D'un côté, en effet, Sancho va se montrer tout à fait incapable de reconstituer de mémoire la lettre que Don Quichotte lui a lue et dont il n'a plus le texte parce que, malheureusement, il a oublié le Librio de Memoria dans la Sierra Morena. Alors, quand il arrive au village, le barbier et le curé lui demandent qu'est-ce qu'était cette lettre. Il ne peut pas leur montrer le texte puisqu'il a oublié le Librio de Memoria. Il essaye de reconstituer de mémoire ce que lui avait dit Don Quichotte. Et Dieu du ciel, monsieur le licencié, dit-il au curé, les diables m'emportent, si je me rappelle, se me acuerda, quoi que ce soit de la lettre. Encore qu'au commencement, elle disait « Alta y sobajada señora », souterraine et haute dame. Elle ne devait pas dire « souterraine », réplique le barbier, mais sans doute « sobre humana », ou « soberana señora », c'est-à-dire « surhumaine » ou « souveraine dame ». Et Sancho, on le voit là, est totalement dépourvu de tout instrument qui lui permettrait de récupérer dans sa mémoire ce qui a pu y entrer lorsque Don Quichotte lui a lu la lettre qu'il avait écrite pour Dulcinea. Et ses efforts pathétiques pour se rappeler ce qu'il a en fait oublié ne produisent que l'ironie de ses interlocuteurs. Tous deux, dit le texte, prirent grand plaisir à voir la bonne mémoire de Sancho et ils lui en donnèrent quantité de louanges. Donc, d'un côté, Sancho qui oublie, Sancho el olvidoso, Sancho l'oublieux, pour ce qui est du registre d'une mémoire immédiate et d'une mémoire individuelle. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que Sancho est Sancho el memorioso. C'est un homme qui a une mémoire habitée, riche, de tout un répertoire de proverbes, de sentences et de contes. Il parle de mémoire, des refranes, des sentencias et des consejas ou cuentos. C'est un être d'une mémoire partagée, celle qui fait incorporer par chaque individu de sa communauté tout un patrimoine commun d'histoire, de formules qui ont été entendues, qui ont été incorporées et qui peuvent être retrouvés, comme par exemple l'histoire du pêcheur et des chèvres qui passaient d'un côté à l'autre du fleuve. Mais cette mémoire-là, ce qui est intéressant, c'est que si elle entre tout à fait dans la perspective de Halbwachs sur les cadres sociaux de la mémoire, elle est nourrie par ces cadres sociaux du village, elle n'est pas exclusive pour autant d'une forme d'appropriation singulière. C'est-à-dire que dans la mémoire, qui est cette mémoire formulaire, les contes, les proverbes, les sentences, il y a la place pour, ou même la nécessité de l'interprétation individuelle, d'appliquer à bon escient, au bon moment, un proverbe, ou, dans un conte, le lier aux circonstances de sa récitation. Et c'est ce que montre, là, avec une incroyable acuité ethnologique, Cervantes dans le chapitre 20, où Sancho raconte le conte des chèvres qui passent le fleuve, et où, à la fois, Sancho est très attaché à la formule du conte, et au point qu'il l'interrompt si Don Quichotte, à un moment où Don Quichotte n'a arrêté de compter les chèvres qui passaient, et en même temps, est tout à fait capable de l'interprétation, de l'application, puisqu'il multiplie les digressions ou les références à la situation dans laquelle se trouvent lui et Don Quichotte en rapport avec l'histoire même qu'il est en train de lui conter. Il y a donc à la fois une très grande fidélité aux structures formelles du récit et en même temps une capacité d'interprétation qui est marquée par les digressions et par les références. On a donc à la fois des cadres sociaux de la mémoire et aussi une possibilité de l'invention et de l'improvisation à l'intérieur de ces cadres sociaux de la mémoire. Du coup, on voit comment le conteur est réintroduit dans le conte et comment la singularité du moment est réintroduite dans un répertoire partagé et détaché de toute circonstance particulière. Il y a un parallèle que l'on peut tracer entre cette description de la manière de conter un conte par Sancho, tel que la met en texte Cervantes dans le chapitre 20, et de l'autre côté, ce que les ethnologues ont pu décrire lorsqu'ils se sont attachés, non pas au répertoire des motifs ou des structures des contes, mais lorsqu'ils se sont attachés aux manières de conter les contes. Il y a un livre magnifique de Linda Degg qui a porté Folk Tales and Society et qui était une analyse, une description de comment, dans une partie de l'Europe centrale, juste après la Seconde Guerre mondiale, des conteurs comptaient les contes et avec cette même tension entre, d'un côté, un répertoire fixe d'histoires et de formules et, de l'autre côté, une grande différence dans les capacités de l'improvisation qui font détacher dans une communauté celui qui compte mieux que les autres parce qu'il est capable de maîtriser cette relation avec la circonstance ou de multiplier les digressions tout en restant à l'intérieur du protocole formulaire qui est celui de la récitation du conte. Donc Sancho, à la fois l'oublieux et l'être de mémoire. Don Quichotte, lui, serait une autre extrémité de ce spectre des mémoires individuelles ou collectives, puisque les souvenirs qui lui reviennent, les souvenirs qu'il puise dans sa mémoire, sont des souvenirs de l'île décrit, sont des souvenirs de bibliothèque. Et la mobilisation de cette mémoire de papier qui est devenue la mémoire de Don Quichotte, donc une mémoire d'écrit contrastée avec le monde d'oralité de Sancho, qui ne sait ni lire ni écrire, est la clé pour lui pour donner sens à ce qui survient. Il applique aux situations des éléments qui lui viennent ou qu'il puise dans cette mémoire des livres, et en particulier des livres de chevalerie. On peut le voir au début du chapitre 5, où il a été victime d'une grave mésaventure, puisque les garçons de mules des marchands de Tolède qu'il a attaqués l'ont roué de coups, et il gît sur le sol moulu de coups et de blessures. Je cite, « Voyant donc qu'en effet il ne pouvait pas remuer, il s'avisa de recourir à son remède ordinaire. Se acordó de acogerse a su ordinario remedio, qui était de penser, pensar, à quelque épisode de ses livres, et sa folie lui remit en mémoire, trujole su locura a la memoria, celui de Baudouin et du marquis de Mantoue, lorsque Charlot eut laissé le premier blessé dans la montagne. Une histoire connue des enfants, non ignoré des jeunes gens, célébré et même cru des vieillards, et néanmoins pas plus vrai que les miracles de Mahomet. Celle-ci lui parut donc s'appliquer à merveille, les venir des moldes, à nouveau la référence à quelque chose qui est excellent, mais parce que référé à cette pureté ou cette netteté typographique. Celle-ci lui parut donc s'appliquer à merveille à la mauvaise passe où il se trouvait, et ainsi, donnant tous les signes d'une grande douleur, il se mit à se rouler par terre et à dire d'une voix affaiblie cela même que disait, dit-on, le chevalier blessé dans la forêt. Et Cervantes cite ici six vers du romance du cycle du marquis de Mantoue que Don Quichotte a fait revenir à sa mémoire, et peut-être en usant des techniques des mnémotechniques qui permettent de faire venir à la conscience ce qui était en présent dans les magasins de la mémoire. On voit que dans le cas de Don Quichotte, la signification des circonstances, la possibilité de leur trouver une résolution est directement liée à cette capacité de convocation d'une mémoire qui est entièrement livresque, la mémoire comme bibliothèque ou la bibliothèque comme mémoire. Du coup, on voit que Don Quichotte et Cervantes déplacent sur ce registre de la satire et de l'ironie d'un Don Quichotte qui est capable de puiser dans sa mémoire les fragments de texte qui vont donner sens à une situation présente, ce qui, dans le monde des érudits, des lettrés, est une technique comparable, mais non pas pour faire surgir à la mémoire des fragments des romances ou des livres de chevalerie, mais pour faire surgir à la mémoire les lieux communs, les loci communes, qui ont été stockés dans la mémoire et qui sont convoqués pour donner sens à une situation et qui inscrivent les expériences singulières dans des vérités universelles. La technique fondamentale que j'ai déjà évoquée de la lecture à l'humanisme, de l'humanisme qui consiste à extraire des textes lus, ce que l'on décrit comme sententiae, loci communes, c'est-à-dire les vérités les plus universelles, les vérités les plus sublimes, et que l'on met en mémoire et que l'on peut retrouver grâce à l'usage de mnémotechniques. Il y a donc dans ce passage du Quichotte comme une parodie chevaleresque de ce qui est une technique érudite, la capacité de donner sens à une situation en convoquant dans sa mémoire ce qui est un instrument d'intelligibilité. Dans le cas des lettrés, des érudits, des humanismes, les lieux communs. Dans le cas de Don Quichotte, les romances ou les livres de chevalerie. Alors je vais terminer avec un dernier texte qui n'est pas cité par Rucker, mais qui nous permet peut-être de poursuivre plus avant cette idée de l'ascription de caractères communs aux mémoires individuelles et aux mémoires collectives. C'est une des une nouvelle de un conte aussi de Borges. Un des derniers qu'il a écrit, puisqu'il l'a écrit en 1980, publié dans le journal Clarín, cette fois-ci, et qui ensuite sera repris avec trois autres contes pour former la dernière anthologie de contes de Borges intitulée « La Memoria de Shakespeare ». Il revient toujours dans une interview sur les raisons de l'écriture de ce conte, la mémoire de Shakespeare. Et il dit que ce qui en était l'origine était un rêve fait en 1975, alors qu'il était aux États-Unis pour un tour dans des universités américaines à l'Université de Michigan, et dans laquelle il aurait entendu la phrase suivante « Je te vends la mémoire de Shakespeare ». Et il termine la rédaction du conte en 1979. Et je cite « En réalité, j'ai passé toute ma vie à penser à ce conte et je le considérais un peu comme un devoir. Il représente pour moi ce que fut le Faust pour Goethe. J'avais très peur de ne pas pouvoir le terminer et de ne pas le réussir, car j'y pensais sans cesse. Je le considère un peu comme le compagnon de ma vie littéraire. » Alors on peut toujours avoir une relation critique par rapport aux déclarations de Borges, qui, à la fois parce que tout homme peut reconstituer illusoirement dans le passé ce qui est considéré comme l'origine de ce qu'il a fait, et aussi parce que dans le cas de Borges, le jeu est constamment présent, et en particulier ce thème du rêve. Le rêve ici, où il entend de cette injonction de vendre la, ou de transmettre la mémoire de Shakespeare, et aussi, comme on l'a vu, en fait, qui est peu commenté, mais très important dans Funès et le Memorioso, c'est-à-dire non seulement l'incapacité à penser, mais aussi l'incapacité à dormir. Et je pensais d'ailleurs que les langues romanes peuvent donner une illustration de cela, mais peut-être avec d'ailleurs une discordance, puisque dans le cas de l'espagnol, acordarse, c'est se souvenir de, et dans le cas du portugais, c'est acordar, c'est se réveiller. Et donc, du coup, dans les deux cas, on aurait, avec ce lien lexical, la même relation entre le sommeil et le souvenir telle qu'elle est mise en place dans le texte de Funès et Memorioso et des commentaires qui l'accompagnent chez Borges. Alors revenons à la mémoire de Shakespeare. Cette fable est un peu moins fameuse que celle de Funès et elle raconte comment une mémoire individuelle, celle de Shakespeare, peut être transmise à d'autres, entière, intacte. C'est triste ou dommage que Ricoeur n'ait pas pensé à ce texte parce que c'était une illustration parfaite de la possibilité d'inscription identique des mémoires, soit à l'individu, soit au groupe. Ici, le groupe, c'est ceux qui reçoivent successivement la mémoire de Shakespeare. L'histoire commençant par un soldat qui s'appelle Adam Clay, qui meurt en Orient, à l'aube, dans une ambulance, et qui avait la mémoire de Shakespeare, et qui la transmet à un critique shakespearien, Daniel Thorpe, et lui-même l'offre à un troisième porteur de cette mémoire de Shakespeare, Hermann Zörgel, qui est un spécialiste allemand de littérature anglaise, l'auteur supposé d'une chronologie de Shakespeare et, comme le dit Borges, d'une étude sur les néologismes que Chapman avait inventé pour traduire Homère. Et Zörgel accueille le don, la mémoire de Shakespeare, en prononçant la formule « j'accepte la mémoire » de Shakespeare, répondant positivement à la question que Borges dit avoir reçue dans son sommeil à Michigan. Dès lors, et c'est là le point clé, Zörgel, comme avant Thorpe, comme avant Clay, est l'homme de deux mémoires. Et toute la fiction de Borges, dans ce cas-là, se déploie en opposant, comme on l'a fait au début de cet exposé, mnémée et anamnésis. C'est-à-dire mnémée, surgissement du souvenir, et anamnésis, travail, quête de la mémoire. En effet, tous les efforts de Zörgel, qui a reçu cette mémoire de Shakespeare, pour réellement se l'approprier, se révèlent vains. Il a lu tous les livres lus par Shakespeare. Il a lu les sonnets qui peuvent être considérés comme un document plus biographique ou autobiographique. Il est même allé à Stratford-upon-Avon pour être là, dans le lieu de l'existence même de Shakespeare. Et tout cela ne suffit pas à s'emparer pleinement de la mémoire qui lui a été transmise. À l'inverse, c'est dans ses rêves, cette mémoire qui s'empare de lui. Thorpe, le second possesseur de la mémoire de Shakespeare, dans le conte, le disait déjà. « J'ai à présent deux mémoires, la mienne personnelle et celle de Shakespeare, que je suis en partie. » Ou, pour mieux dire, deux mémoires me gouvernent. Et d'ailleurs, l'espagnol est plus économe parce que il dit cela avec un seul verbe, tener. Tengo dos memorias, j'ai deux mémoires, mejor dicho, dos memorias me tienen, deux mémoires, bon. Et donc, on voit que c'est à partir de ça, par cette invasion de la mémoire de Shakespeare de manière inconsciente dans son rêve, que finalement, possédé par cette mémoire, Zörgel en devient le possesseur. Au bout de 30 jours environ, la mémoire d'humeur me stimula. Durant une semaine d'étrange félicité, j'eus presque le sentiment d'être Shakespeare. Cassi crei sert Shakespeare. Son œuvre se revivifia en moi. On voit que ici, le jeu est entre la difficulté, la douleur et finalement l'échec du rappel laborieux qui était la première tentative de Sorgel, lisant ce qu'a lu Shakespeare, vivant là où Shakespeare a vécu, déchiffrant dans les sonnets une existence, une vie. À cette difficulté, cette douleur, cet échec, fait contraste cette sorte de bonheur de l'évocation immédiate, la survenance joyeuse du souvenir. Mais cette félicité qui est celle de Sorgel lorsque possédé par la mémoire, il pense en être le possesseur, elle ne dure pas dans la mesure où la blessure réside dans l'impossibilité de concilier deux mémoires, la leur et celle du poète, qui devient accablante. Je cite « Durant la première étape de mon aventure, je sentis le bonheur d'être Shakespeare, ce qui se transforma plus tard en un joug insupportable et en terreur. Au début, nos deux mémoires ne mélangeaient pas leurs eaux. Avec le temps, le grand fleuve shakespearien menaça et anéantit presque mon modeste cours d'eau. Je notais avec épouvante que j'étais sur le point d'oublier la langue de mes pères, et comme l'identité personnelle se fonde sur la mémoire, je craignis pour ma propre raison. Au fur et à mesure que passent les années, tout homme est contraint d'endurer la charge croissante de sa mémoire. Deux mémoires m'accablaient, qui se confondaient parfois, la mienne et celle de l'autre, incommunicables. » Il y a donc là la raison pour laquelle, à cette félicité que représente la possibilité d'avoir la mémoire de Shakespeare, succède à un moment la nécessité, l'urgence de se libérer de cette mémoire qui étouffe la mémoire propre et qui, du coup, met en péril, met en danger l'identité même. Et du coup, Sorgel, par téléphone, choisissant au hasard, fait don de sa mémoire à ce qu'il appelle la voix d'un homme cultivé, qui lui aussi répond « J'accepte la mémoire de Shakespeare » et va courir à son tour le risque. On voit donc que la modalité ou la modulation du conte de Borges jusque-là, par rapport à cette idée d'ascription de traits communs à la mémoire individuelle ou à la mémoire collective, introduit quelque chose d'autre, qui est que la difficile, la douloureuse conciliation de deux mémoires. Et cette ascription théorique n'a pas, dans la réalité phénoménologique, évidemment, la même possibilité. Elle est traduite par cette tension insupportable entre une identité qui se détruit et, d'autre part, la séduction d'avoir la mémoire de Shakespeare, presque de pouvoir être Shakespeare. La fin du conte nous ramène à l'oubli, puisque une fois cédée la mémoire, il faut en effacer les traces. C'est-à-dire que ce travail de l'oubli est aussi difficile, aussi exigeant que le travail de la quête, que le travail de l'anamnèse. Sorgel dit « J'avais imaginé diverses disciplines afin d'éveiller l'ancienne mémoire. J'ai dû en chercher d'autres pour l'effacer. » C'est-à-dire le pendant de ses efforts pour posséder la mémoire de Shakespeare a comme même exigence les efforts pour l'effacer. L'une d'elles fut l'étude de la mythologie de William Blake, disciple rebelle de Swedenborg. Je constatais qu'elle était moins complexe que compliquée. Ce chemin ainsi que tous les autres furent inutiles. Ils me menaient tous à Shakespeare. Donc on voit que, comme sur le Librillo de Memoria de Cardenio, comme sur le Wunderblock de Freud, l'effacement est nécessaire, vital, mais qu'en même temps, la trace est perdurable. Et dans ce cas-là, une trace qui est un obstacle est un handicap. La construction d'une mémoire de réserve qui suppose l'oubli ne protège donc pas, dans le cas de Sorgel, de retour non voulu de ce qui aurait dû disparaître. Et c'est ainsi que le conte se termine par un post-scriptum qui énonce à la fois l'exigence douloureuse et finalement l'impossibilité heureuse de l'oubli, cette ambiguïté qui tourne autour d'une impossibilité qui finalement peut être heureuse en même temps que l'exigence de l'effacement était impérieuse mais en même temps douloureuse. Voilà la fin du texte, post-scriptum 1924, c'est Sorgel qui écrit « Je suis désormais un homme parmi les hommes. Durant le jour, je suis le professeur Hermann Sorgel qui manie un fichier et rédige des banalités érudites. Mais à l'aube, je sais parfois que c'est l'autre qui rêve. De loin en loin, je suis surpris par de fugaces souvenirs qui sont peut-être authentiques. » Alors, la conclusion que je voudrais donner, c'est à ce parcours de lecture de Cervantes avec les références mises en place conceptuelles par Ricoeur, et donc, du coup, tous les chemins sur lesquels nous ont amenés ce rapprochement du côté de la fiction, avec le Borges explicitement cité par Ricoeur, Funès, ou un Borges que je lui ajoute, la Memoria de Shakespeare, ou bien qu'ils nous ont amené du côté de Freud, avec la tension entre l'inconscient, qui est un oubli de réserve, et de l'autre côté, le conscient, le système perception conscience, ou encore ce chemin qui pouvait amener à ces objets qui, dans les sociétés anciennes, tenaient le paradoxe d'aider à la mémoire tout en permettant l'effacement, sans que pour autant cet effacement soit absolu. C'est le cas avec le Wunderblock, c'est le cas avec le Librio des Mémorials. On voit que tous ces cheminements peuvent être replacés aussi dans un contexte plus large et de plus longue durée, qui serait celui d'une histoire d'une histoire de la mémoire, dans un certain sens. C'est-à-dire le fait que le cours de l'évolution de l'histoire occidentale a été la multiplication des prothèses de la mémoire ou d'une extériorité de la mémoire confiée à des supports qui libèrent, pour le bien ou le mal, la mémoire intérieure. L'histoire peut commencer avec le Phèdre de Platon, c'est-à-dire l'idée que l'écriture va être cette forme de graphique d'inscription d'une mémoire au risque d'une perte des compétences mémorielles des individus. Cette histoire peut se prolonger avec une mémoire confiée non pas seulement à l'écrit, mais au livre, à la bibliothèque, et aujourd'hui, évidemment, d'une mémoire qui devient numérique et qui est celle qui se trouve dans chacun des ordinateurs. Il y a donc là une trajectoire d'externalisation de la mémoire, une multiplication des prothèses de la mémoire qui a sans doute pour effet à la fois une libération impossible pour Funès le Memorioso des capacités à penser et ensuite, du même coup, une réduction des capacités mémorielles des individus. Et c'est dans cette trame-là que l'on peut inscrire une histoire qui, je l'évoquais en passant, en comparant la mémoire de Don Quichotte avec la mémoire des humanistes, la mémorisation des poèmes et des livres de chevalerie versus la mémorisation des lieux communs, des sentences, des vérités universelles, qui est le propre de la technique des lieux communs. Dans les deux cas, une mémorisation qui est portée ou qui puise dans les formes écrites de ces fragments. Et du coup, d'ouvrir la réflexion sur cette période médiévale et encore renaissante, dans laquelle, bien sûr, le livre existe comme bibliothèque de mémoire, mais dans laquelle aussi des mnémotechniques inventées dans l'Antiquité ont une importance tout à fait essentielle. C'est-à-dire l'idée que dans l'esprit peut être archivé des textes entiers ou des fragments de textes qui sont mobilisables dans la production de nouvelles compositions ou qui sont mobilisables, comme on l'a vu, pour l'application aux circonstances. Et les travaux ou les livres de Marie Carruthers, Paolo Rossi, Frances Yates s'inscrivent dans ce paradigme selon lequel, et surtout ceux de Marie Carruthers, dans lequel les mnémotechniques sont des techniques qui visent à donner un primat à la mémoire incorporée par les individus. Ce qui a à la fois des conséquences sur les modes d'organisation de cette mémoire dans l'esprit et de là les techniques de mémorisation qui renvoient à tous les dispositifs qui permettent d'organiser mentalement des magasins de la mémoire, que ce soit les images qui considèrent la mémoire comme un édifice, un palais, une ville, et où chaque fragment, chaque partie de cet ensemble est un lieu qui accueille spécifiquement certaines classes de textes et de fragments, ou encore l'utilisation de systèmes mentaux, purement mentaux, d'indexation, que ce soit par rapport à des lettres de l'alphabet ou d'alphabets même de langues non connues, mais qui servent d'index, ou bien que ce soit par rapport à des dispositifs numériques, ou encore mentalement, des images mentales, figures humaines, bestiaires, grotesques, qui sont autant de lieux auxquels sont attachées des catégories et des classes de textes. Cette architecture purement mentale des mémoires comme étant la capacité pour les individus d'inscrire, entre guillemets, puisque là il s'agit d'une inscription métaphorique, d'une écriture sur l'esprit, donc d'inscrire dans ces lieux des textes ou des fragments de textes capables ensuite d'être mobilisés pour être utilisés dans un discours oral ou dans une pratique d'écriture. Et l'on voit que dans cette puissance d'une mémoire purement mentale, organisée à partir de techniques et de lieux, le primat est donné à cette dimension par rapport aux livres qui sont considérés, comme le dit Marie Carruthers, comme second. La culture médiévale resta de nature profondément mémorielle malgré l'utilisation et la disponibilité accrue des livres. Et même les termes peuvent être inversés, ce ne sont pas les livres peuvent être aussi construits dans leurs pages comme étant des supports pour cette incorporation mémorielle. Et de là, l'idée qu'aux images mentales peuvent correspondre des images peintes sur les manuscrits, mais qui permettent de mémoriser un contenu de texte correspondant à une page par cette indexation qui le lie à telle ou telle figure grotesque ou tel élément du bestiaire. Les conséquences de ce primat des mnémotechniques, des techniques d'une mémorisation mentale, appuyées sur le livre, mais fonctionnant part en elle-même, dans ces lieux de la mémoire, peut-être aussi une réflexion sur la lecture elle-même, les lectures qui sont liées avec cette logique de la mémoire lorsqu'elle est un art, et un art qui vise à l'incorporation mémorielle dans l'esprit à distance du livre, comme on le voit avec Don Quichotte. Les livres ne sont pas là, mais ils sont dans sa mémoire. De la même manière avec les recueils des lieux communs. La source, le texte d'origine n'est pas là, mais l'organisation architecturale de la mémoire permet de retrouver le fragment désiré à tel ou tel moment. Et donc, du coup, une réflexion sur les modes de lecture qui permettent à la fois la construction de ces matériaux. Et on peut supposer que beaucoup de fragmentation des textes, par exemple les versets de la Bible ou des questions dans des corpus juridiques, ont pu avoir une existence mentale avant même d'être une structure de leur composition sur la page des livres. Mais évidemment permettant du coup, par cette segmentation, des possibilités d'incorporation pour la mémoire. On peut penser aussi que le type de lecture qui favorise cette incorporation est la lecture qui est cette lecture silencieuse, solitaire, par les yeux seuls, que l'on voit gagner en importance au fil de l'époque médiévale, aux dépens d'une lecture nécessairement oralisée. Et on peut penser aussi que dans l'acte de lecture, la composition des fragments entre ce qui est lu et ce qui est dans les magasins de la mémoire définit ce que dans les textes médiévaux on désigne comme meditatio, une capacité de combiner à la fois le texte qui est lu avec les autres textes, une sorte d'hypertextualité, mais sans ordinateur, les autres textes qui sont convoqués dans ces lieux, architecture ou magasins de la mémoire. Et on a là, évidemment, une matrice aussi pour comprendre les textes que j'ai évoqués ou commentés ce matin. Cette matrice cédant de plus en plus la place lorsque cette externalisation de la mémoire dont je parlais va se développer et prendre toute son importance en non plus pensant le livre comme un aliment pour les mnémotechniques, mais comme un dépôt, comme un répertoire, comme une ressource pour une mémoire qui n'a plus à être dans l'ordre du mental, et avec le monde numérique, une étape supplémentaire dans cette externalisation et cette assignation à un objet qui est à la fois très matériel et immatériel de la mémoire. La première question sur la capacité différente des ordinateurs étant la capacité de leur mémoire. Donc on a là une trajectoire qui, je crois, est extrêmement fondamentale et dans laquelle on peut insérer ce que j'ai essayé de faire ce matin en essayant de lire les différentes formes de mémoire, surgissement ou anamnèse, individuelles ou collectives, telles qu'elles sont à la fois conceptuellement désignées en s'appuyant sur toute une tradition philosophique et phénoménologique par Paul Ricoeur, et telles que ces distinctions, elles sont utilisées à l'état pratique pour produire des effets esthétiques dans la caractérisation des personnages, dans l'ironie ou la satire, dans les échanges qui peuvent exister entre différentes formes de mémoire par Cervantes dans les chapitres de la Sierra Morena, 23 à 30 de la première partie de Don Quichotte, et avec ces trois figures clés sur lesquelles je termine, Sancho, l'homme des cadres sociaux d'une mémoire entièrement orale, Don Quichotte, l'homme d'une bibliothèque comme mémoire, et avec, entre ces deux extrêmes, d'une mémoire sans écrit et d'un écrit qui est mémoire, là, le libro o librillo de memoria, c'est-à-dire cet objet qui est à la fois un objet d'inscription et d'effacement, qui est un objet qui est dans la mémoire, mais qui en même temps n'est pas paralysé par les traces du passé. Et c'est donc là cette lecture qui me paraît justifiée, cette interprétation qui me paraît justifiée, cet acte anachronique, péché d'historien commis ce matin, c'est-à-dire le fait de lire Cervantes avec des catégories et des concepts dont il ne pouvait que très partiellement disposer. Merci.